Je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois un tyran seul, qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne, qui n'a pouvoir de leur nuire qu'autant qu'ils veulent bien l'endurer, et qui ne pourrait leur faire aucun mal s'il n'aimait mieux tout souffrir de lui que de le contredire. Chose vraiment étonnante, et pourtant si commune qu'il faut plutôt en gémir que s'en ébahir. De voir 1 million d'hommes misérablement asservis, la tête sous le joug, non qu'ils y soient contraints par une force majeure, mais parce qu'ils sont fascinés et, pour ainsi dire, ensorcelés par le seul nom d'un qu'ils ne devraient pas redouter, puisqu'il est seul, ni aimé, puisqu'il est envers eux tous inhumain et cruel. Telle est pourtant la faiblesse des hommes, contraints à l'obéissance, obligés de temporiser. Ils ne peuvent pas être toujours les plus forts. Voilà, alors c'était un extrait de La servitude volontaire de La Boétie. Et bon, alors vous êtes sur Radio Libertaire, c'était tout de suite pour mettre les pieds dans le plat du sujet qui va nous occuper d'une façon majeure un peu aujourd'hui. Donc Chronique Hebdo sur Radio Libertaire, l'émission...
Le commentaire de l'actualité,
voilà.
Sans invité aujourd'hui, et donc nous allons nous en donner à cœur joie, sans être obligés de donner la parole à notre invité adoré. Mais enfin, on va quand même évoquer notre invité, parce que je pense, Gérard, tu me diras si ce sommaire te convient. Je pense qu'il y a 3 questions que nous allons aborder sur l'État, parce qu'effectivement, on vient de parler de la servitude volontaire. On va parler des exactions policières, de l'État policier, et ça, c'est l'application, j'allais dire, de ce commentaire du texte que nous avons évoqué avec Franck Poupeau sur l'État à propos des conférences, des cours que faisait Bourdieu au Collège de France. Donc l'État policier, c'est vraiment le cas, parce qu'on a des exemples aussi très concrets. Et puis nous aurons encore en deuxième sujet, évidemment, le nucléaire, parce que effectivement, nous avons à titre personnel participé à une manifestation antinucléaire qui était programmée devant l'hôtel de ville de Monsieur Delanoë dimanche dernier. Mmh. On aura l'occasion de dire ce qu'on a pensé de cette immense manifestation qui a rassemblé des foules. Et puis le troisième sujet qui est cher à Gérard, c'est évidemment le sujet du travail, puisque effectivement, dans le Canard enchaîné, un petit articulet nous montre que les promesses du président Sarkozy, du tyrannosaure, eh bien, sur l'engagement de réduire le nombre de chômeurs, évidemment, comme toutes les autres promesses, étaient complètement fausses, étaient mensongères, puisque le chômage et le nombre de chômeurs n'a fait qu'augmenter au cours de ces 5 tristes dernières années du quinquennat du chanoine du Latran. Alors Gérard, tu veux peut-être ajouter à ces trois sujets d'autres thèmes.
Oh bah peut-être, comme on a tout à l'heure évoqué, Josie, en lisant le fameux texte, oui, un extrait de la Boétie de la servitude volontaire. Alors essayez aussi, on l'évoquera, hein, par rapport à la dans ce texte, enfin ce qu'on peut voir tout de suite en parlant que les trois systèmes de tyrannie, hein, la tyrannie par la force, la tyrannie par la descendance et la tyrannie par les élections, bah c'est peut-être celle-là justement qui est la plus dommageable à l'ensemble des populations. Alors la tyrannie par les élections, donc on en parlera, mais thème,
on peut même l'évoquer maintenant.
Oui,
on peut commencer par ça.
Bon, alors là aussi, bah, annoncer quand même aux auditeurs, voilà, la possibilité de retrouver l'équipe de Chronique Hebdo. Vous le savez sûrement, hein, ça dure depuis plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. Après, ça se situe donc à Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. On vous rappelle que c'est le lieu pour le Monde Libertaire et pour Radio Libertaire, si vous voulez écrire, hein, si vous voulez aussi vous abonner. On parlera ce matin aussi du Monde Libertaire. Et justement, puisque l'annonce est faite pour vendredi, donc pour demain, la librairie continue, comme on dit, après 19h30, hein, les heures de horaires de fermeture de Publico. Eh bien, la librairie continue et vous aurez la fameuse séquence « L'ai-je bien lu ?» Alors, je vais vous le lire, puisque ça s'appelle « L'ai-je bien lu ?» Les soirées lectures de la librairie du Monde Libertaire. Donc, Josie Jacques Gérard, animateur de l'émission Chronique Hebdo sur Radio Libertaire, que vous retrouverez demain, viendront discuter avec vous, surtout, de la soumission à l'autorité en général et de ce livre en particulier, dont on vient de citer quelques extraits, Le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Tout ça, je vous le rappelle, à la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, où l'on cite, si vous venez en métro, le République Oberkampf, Fille du Calvaire, avec une entrée libre qui est précisée et la sortie aussi. On vous le précise, normalement, ah oui, ça soit comme ça. Alors, sur ce thème, bah, on a un peu regardé, bah, Jacques, alors.
Oui, bah oui, sur ce thème, je pense que dans la pratique, on va évoquer un certain nombre de phénomènes, notamment des compagnons qui ont été molestés et arrêtés parce que ils collaient des affiches qui ne plaisaient pas aux flics, et puis aussi justement nos compagnons et compagnes de l'émission lundi matin qui ont été eux aussi contrôlés, fouillés en descendant simplement la rue qui mène au studio. Donc oui. Je crois que on est
dans le 11e, on peut dire
quand on parle de société policière, eh bien on est véritablement dedans, et quand on pense qu'on détourne l'attention de l'ensemble des gens qui essayent de réfléchir en leur parlant sans arrêt de cette pantalonnade qui s'appelle la préparation de l'élection présidentielle, eh bien je crois que là encore c'est bien le signe que non seulement la servitude est volontaire, mais qu'on entraîne à la servitude des individus en les culpabilisant et en leur disant vous êtes des citoyens, vous devez aller voter, hein, et donc cette propagande absolument ignoble qui consiste à dire mais vous n'avez pas d'autre choix que d'aller choisir l'une des marionnettes qui continuera à vous tyranniser avec la même férocité que celle que vous remplacerez, hein, parce qu'il faut se faire aucune illusion. À partir du moment où on donne le pouvoir à un seul homme, comme le dit la Boétie, c'est nécessairement un tyran. On sait très bien que le pouvoir absolu, et quand il est concentré dans les mains d'un seul individu, c'est un pouvoir qui ne peut être que néfaste, que nuisible à l'ensemble de la société. Et par conséquent, je crois que quand on voit dans le monde libertaire, vous verrez aussi, je vous invite à l'acheter si vous n'êtes pas abonné, il y a une petite affiche à l'intérieur du journal qui relève tous les mécaniques de la société policière, avec non seulement le contrôle du flic, mais en même temps les caméras de surveillance, la nécessité, l'obligation de donner ses gènes, enfin toutes les mécaniques qui consistent à dire que l'individu ne devient plus qu'un objet à contrôler, à surveiller en permanence. On est même en train d'imaginer un espèce de robot miniature qui pénétrerait dans le cerveau des individus pour savoir ce qu'ils pensent, enfin donc, ou ce qu'ils ne pensent pas, parce qu'effectivement, une fois qu'on a transformé les individus en zombies, évidemment, on n'a plus qu'à les faire obéir. Alors, quand on dit que l'État est étranger au droit, indifférent à toute idée morale et simple instrument de force, eh bien, on en a l'exemple aujourd'hui. Et plus se rapproche la période où on va choisir un nouveau tyran, comme dirait Étienne, eh bien, plus la police, plus l'espèce d'administration de fonctionnaires chargés de mettre en place tous les outils de coercition, tous les outils qui suscitent la peur ou l'aveuglement, hein, comme ce qui se passe évidemment avec la propagande médiatique. Je pensais sur ce terrain-là, quand on parle de démocratie, on dit « Oh, mais nous sommes quand même dans une démocratie, voilà, nous allons et vous avez le droit d'élire ». Eh bien, je me disais une chose, on a souvent discuter, puisqu'il paraît que dans deux jours, les candidats à l'élection présidentielle n'auront plus le droit de se présenter devant les médias, ni à la radio, comme si ça avait le moindre intérêt, puisque les journalistes continueront
à les matraquer.
Mais je me disais qu'on a un CSA, un Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est chargé, au fond, de faire vivre la liberté d'expression et surtout la diversité d'expression. Eh bien, s'il y a une expression qui a été bannie, une expression qui a été complètement ligoté, qui a été écrasé, qui a été pulvérisé, c'est l'expression de l'abstention. Et l'abstention, c'est quelque chose de concret, et c'est quelque chose de positif, et c'est quelque chose qui, effectivement, comme le dirait la Boétie, essaye de nous dégager de cette servitude à laquelle, volontairement, on veut nous obliger à être dedans. Et je crois que on peut dire qu'une démocratie qui n'est pas capable, en effet, de respecter cette liberté, cette diversité de l'expression, qui considère que parce que 7 ou 8 petits imbéciles veulent se présenter à la présidence de la République, eh bien, il n'y a que ceux qui les écoutent qui ont le droit à la parole. Eh bien, je crois que on a bien là la démonstration que nous ne sommes pas du tout dans cette espèce de démocratie, mais plutôt dans une démocrature.
Oui, alors, comme avait dit Castoriadis, le rappeler aux auditeurs, à ce sujet. Alors, évidemment, on l'a déjà dit sur cette antenne, là, c'est pas une nouveauté, c'est la propagande, l'appareil de propagande idéologique absolument partout. Mais de temps en temps, certains disent, il y a quelque chose qui se passe, ou on pourrait dire, il y a un événement. Alors, il y en a eu un mini événement, mais qui passe dans le jeu, évidemment, de la société du spectacle, la société médiatique. C'était mardi dernier, vous savez, cette fameuse ou fumeuse émission qui s'appelle Ce soir ou jamais, où on organise des pseudo-débats, hein. Bon. Alors, le consensus, ça porte bien son nom, avec un trait d'union. Eh bien, les personnages qui étaient invités devaient évidemment débattre des sujets d'actualité. C'est un peu le thème de l'émission. Alors, dedans, il y avait des personnages, les Duhamel, vous savez, qui sont deux dans le journalisme, et qui étaient un dont Patrice, je crois, qui était directeur à la télévision aussi, sur une chaîne, il y a pas très longtemps. Il y avait aussi, alors, Madame Lévy, hein, qui fait partie d'une revue, enfin d'une revue de, qui s'appelle Causeur, mais on pourrait l'appeler Causette, c'est la Causette de.
Ah oui,
du
mais
pape.
C'est plus grave que ça, c'est vraiment
oui.
La droite. Sinon
tu l'as vu,
droite,
alors,
hein,
alors
c'est,
Jacques,
c'est
alors,
véritablement
si tu as vu cette, si tu as vu cette émission, alors justement, ah oui. Alors il y avait Madame Catherine Ney aussi qui a écrit
la même chose, oui, hein, voilà, qui était donc, scandalisée voilà, parce qu'on ça. S'était moqué de Sarkozy et que oui. Quelqu'un
alors justement,
avait plaisanté.
Ah justement, la plaisanterie, eh bien, ça arrive de temps en temps. C'était une personne qui s'appelle Elios Azoulay, hein, vous pouvez retirer son nom, compositeur et apparemment aussi enseignant de l'histoire de la musique et des arts à l'université d'Évry. Alors, il vient d'écrire un ouvrage, il est aussi un peu écrivain, il y a des bouquins. Et alors, il a osé dire, en créant, évidemment...
Mais ça n'était pas à l'émission que tu évoques.
Ah si, c'est l'émission de mardi dernier.
Ah bon, parce que moi, je pensais à celui qui avait voulu assassiner...
Ah oui, alors autre chose. Mais là aussi, il a été cité, on va le dire comme ça, c'est Jean-Didier Vincent, hein, qui se présente comme biologiste, qui a écrit aussi, je vous l'informe les auditeurs, vous le savez sûrement, un ouvrage sur Élisée Reclus, hein, bon, par rapport à ça, et qui a avait, Jacques, qu'est-ce qu'il avait dit, lui?
Il avait dit, en plaisantant, il ouais. avait dit, il n'y a vraiment plus rien à faire, on ne voit pas du tout comment faire évoluer le parti, l'UMP, le parti de ce président, on voit absolument que des contradictions dans ce qu'il a promis et dans ce qu'il a réalisé, alors donc quelle est la solution? Ben, peut-être qu'on pourrait l'assassiner.
C'est
mais
ça,
il disait
voilà,
ça,
voilà.
Alors, il disait ça, il disait ça évidemment par boutade, ouais. Mais évidemment cette espèce d'imbécile de Catherine Ney, elle ouais. aussi, soi-disant journaliste, mais en réalité réactionnaire, ouais. crypto-fasciste évidente, comme l'ignoble Lévy, eh bien cette personne-là, elle a dit, ah mais je trouve, elle a même écrit pour protester
ah,
contre
oui.
ce qu'a fait ADI,
oui,
en
oui.
disant,
oui,
mais
oui,
votre émission a invité un assassin en voilà. puissance, c'est un véritable
oui,
scandale.
Alors,
vous voyez le niveau de la bêtise de ce type de journaliste.
Dans la continuité, justement, cette émission, hein, c'était mardi soir, puisqu'on parle des élections, ce personnage, enfin cette personne, tout du moins, Elios Azoulay, a osé déclarer, écoutez bien, donc voilà, par rapport à ça, il trouvait que l'ensemble des candidats à la présidence de la République, c'était des porcs. Pourquoi c'était des porcs? Qui voulaient nous donner des leçons d'éthique, alors qu'une fois élus, et on le voit, ils vous écraseront la gueule. Ils écrasent la gueule des gens. Alors évidemment, entendre sur un plateau de télé une telle formulation, alors vous voulez dire...
C'est
moi,
la tyrannie, hein, c'est la Boétie.
C'est pas gentil, j'étais pas d'accord quand même avec sa déclaration, parce que c'est pas gentil pour les porcs. Je trouve que les porcs, finalement, en ce qui concerne les animaux, on leur fait des tours de cochon, si je peux dire, hein, par rapport à l'élevage industriel, par rapport aussi ce que ça peut représenter, évidemment, dans ce système carcéral. Hein, l'enfermement des animaux, c'est aussi l'enfermement des hommes, hein, ça vous le savez. Et donc, c'est vrai que la comparaison, souvent des auditeurs nous ont appelés sur cette antenne en nous disant, comme La Fontaine, les comparaisons animales que vous faites, eh bien, faut peut-être pas les faire parce que les porcs, ils ne participent pas aux élections et ils ne se donnent pas, justement, un tyran ou un candidat.
Ah bah, oui, juste...
Et ça, on voit ouais, ouais. peut-être la supériorité des animaux.
Et pour en revenir à la Boétie,
sans parler des abeilles.
Il dit ça explicitement
oui,
dans
voilà,
son texte.
Voilà.
Il dit, mais les animaux, c'est par ça. Définition, ils veulent la liberté. Quand ils sont contraints par les hommes, effectivement, ils ne font que subir une servitude, alors que ils sont, et il va même jusqu'à l'exemple d'un éléphant qui, se voyant pris par des contrebandiers ah ouais. ou des chasseurs, casse ses deux cornes contre un arbre en se disant, je vais leur donner mon ivoire, peut-être qu'ils vont me laisser tranquille. Donc, c'est tout à fait ça, hein.
Oui.
L'animal, par définition, il a aussi besoin, comme théoriquement l'homme, de la liberté.
La liberté, et continuer, Elios Azoulay, elle dit, mais moi, de toute façon, je ne vote plus. Alors, ça fait carrément, ça fait bouger. Tous ces personnages qui étaient infâmes, infects, pas tous, puisque sur le plateau, il y avait quand même Lilian Thuram, qui s'est exprimé justement sur la construction par rapport aux races, hein, vous savez, le fameux l'histoire, on en parlera peut-être pas ce matin, de le retirer le mot race, puisque les races n'existent pas. Et Patrick Chamoiseau, on se souvient d'un appel qui avait été fait il y a un an à peu près par rapport à tout un tas de personnes comme des gens, des chercheurs, comme des artistes, comme des musiciens, mais aussi l'ensemble de la population, pour absolument protester sur l'ensemble des lois xénophobes. Je voulais dire, là, ça avait secoué les foules, et tous les autres, justement, eh bien, là, étaient là à dire, comment ça, voter la démocratie, c'est inadmissible d'entendre ce terme-là pour nos candidats de port. Alors, voilà, il se passe, mais c'est toujours dans la société du spectacle, ouais, vous le savez, et c'est totalement dilué, voilà,
malheureusement. T'as entendu le côté positif de l'émission, mais moi, qui l'ai pas regardé entièrement, je n'ai malheureusement heureusement entendu que l'aspect négatif, c'est-à-dire les deux imbéciles Lévy et Ney, qui ont fait des déclarations complètement réactionnaires et en même temps complètement stupides. Et puis surtout, celui que j'ai entendu, qui appelait au vote, qui appelait d'une façon, comment on pourrait dire, grandiloquente, c'est le triste sire qui est patron, copatron du Monde, et qui s'appelle Pigasse, qui a dit, il faut absolument que vous alliez voter, c'est ça la démocratie, et il a pas ajouté, mais moi je l'ajoute,
je suis milliardaire,
allez choisir un homme politique, allez choisir un prête-nom, de toute façon c'est moi qui dirigerai, comme en Grèce et comme en Italie, c'est moi, banquier, qui dirigerai votre pays.
Évidemment,
par la suite.
Personne n'était là pour dire, je suis milliardaire, monsieur Pigasse, et vous l'avez volé, qui? Vous êtes un grand criminel, monsieur Pigasse, vous êtes un voleur, comme on dit, si encore une fois, par rapport à l'appellation incontrôlée qu'on a dans l'éducation dite nationale de ce pays où on parle des riches, et qu'on, plutôt que de dire des riches, on les appelait les grands voleurs ou les grands criminels. Donc un criminel, c'est-à-dire quelqu'un qui a plusieurs milliards, quand des millions, des dizaines de millions d'individus crèvent dans la rue, se permettent de dire allez voter. Et on voit bien évidemment l'acoquinement des milliardaires, parce que c'est peut-être cette dérive. Aux États-Unis, vous le savez bien, cette démocratie avait absolument fantoche, absolument ignoble, où ce sont que des milliardaires pour candidats, hein, puisque c'est comme ça, que ce soit les républicains, enfin, vous le savez, cette dérive, ou que ce soit en Russie, ce sont des milliardaires, puisque certains se sont amusés en disant en Russie, c'est la démocratie, c'est pour ça qu'ils ont des urnes bourrées. Alors, les urnes bourrées, c'est la vodka, et vous savez, cette, évidemment, pantalonnade avec Medvedev et Poutine, par rapport à ça, et que tous les tyrans de cette planète, que ce soit en Syrie actuellement avec Assad, qui a comme porte de sortie, il en trouverait une, d'aller faire voter les gens sous les bombes. Voilà un petit peu où nous en sommes. Alors Jacques, cet État, cet accoquinement, évidemment, le système capitaliste a besoin de ce système électoral, de cette escroquerie, évidemment, de cet accoquinement avec les milliardaires, c'est-à-dire avec les grands criminels, et cet État policier, évidemment, est là pour vous foutre sur la gueule, parce qu'il faut défendre tous ces privilégiés.
Voilà.
Et il faut défendre ce système absolument injuste, inique, et ce système qui nous conduit, enfin avec toutes ces dérives, hein, dans le mur. Alors le mur, Jacques, je voulais lire quand même. On parlait de cet État policier, parce que c'est vrai que mieux de vous rappeler ce que le monde libertaire, vous savez, a une page qui s'appelle « Brève de combat ». Eh bien, bref de combat, là, c'était dans le monde libertaire de ce jour, hein, du 15 au 22 mars, puisque nous sommes le 15 mars, je vous rappelle, c'est une émission en direct, première émission en direct de la matinée. Eh bien, Métro Belleville, un vendredi dans l'après-midi. Voilà ce qui se passe, un jeune homme de couleur, hein, bon, là, les termes, se fait contrôler à la sortie du métro. Une passante, la soixantaine... Il nous dit, hein, puisque c'est BCBG, alors à vous de savoir ce que ça veut dire, se poste quelques marches plus haut pour observer tranquillement la scène. Une policière se rue sur elle et l'exhorte à circuler. La dame refuse, faisant valoir son droit de citoyenne de s'intéresser à ce qui se passe dans un espace public. S'ensuit une vive altercation. Un attroupement se forme tout autour de la rambarde qui entoure la station. Le jeune homme est libéré, la femme est arrêtée, menottée. Elle proteste et tente de se libérer les poignets. Sur le chemin du fourgon, les policiers la plaquent contre la grille. C'est pour ça qu'ils montent du rugby. Vous savez que vous avez beaucoup de rugby à la télévision. Le plaquage contre la grille qui borde l'angle de la rue et du boulevard de Belleville. Les passants sont interloqués, choqués, scandalisés. Puis, voilà la suite. Les policiers embarquent la coupable, évidemment entre guillemets, hein, dans le texte, dans le fourgon, toujours menottée, toujours protestant, malheureuse. Conduite au commissariat du 19e, elle sera placée en garde à vue et inculpée. Moralité de l'histoire, un regard plus un refus d'obéissance plus un écart de langage égale une arrestation menottée au point, une garde à vue de 24 heures effective, une inculpation pour outrage et rébellion. Et l'article se termine, celui qui l'a écrit, c'est en France, vous savez bien, le pays des droits de l'homme.
Oui, voilà. Ça effectivement, et là encore, sur ce terrain sécuritaire, sur cet acharnement à transformer notre pays en un véritable état policier, avec non seulement cet événement que tu racontes, mais en plus tout ce qui touche à l'honnêteté intellectuelle. Quand un journal étranger, je crois que c'est le New York Times ou un journal anglais, dit ça n'est plus une différence entre Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy, mais que finalement le discours qui est fait par le président candidat est celui exactement de Madame Le Pen, et ce journal appelle Monsieur Nicolas Le Pen, et ça n'est pas en France que ça se passe, c'est en Angleterre ou aux États-Unis. Alors, puisqu'on a développé, en effet, sur la notion d'État, cet État policier qui, malheureusement, repose sur uniquement, comme le disait Gérard, sur les milliardaires et sur les banquiers, je voulais, puisqu'on a fait un petit peu de lecture, je voulais vous lire un petit texte que j'ai trouvé dans un courrier des lecteurs du journal Le Monde, et je pense que vous essaierez d'imaginer qui est-ce qui a pu écrire un tel texte. Alors voilà le texte. C'est un personnage qui dit ça. Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières prêtes au combat. Si le peuple permet un jour que des banques privées contrôlent sa monnaie, les banques et toutes les institutions qui fleurissent autour des banques priveront les gens de toute possession, d'abord par l'inflation, ensuite par la récession, jusqu'au jour où leurs enfants se réveilleront sans maison et sans toit sur la terre que leurs parents ont conquis. Alors, cette phrase, on pourrait dire, bah, alors c'est sûrement un anarchiste qui a dit ça pour dire, voilà, si les banques ne sont que des criminels, les banquiers ne sont que des voleurs. Eh ben, pas du tout. Figurez-vous que celui qui a écrit le texte que je viens de vous lire, c'est un président des États-Unis, c'est Thomas Jefferson, qui a dirigé les États-Unis pendant 6 ans entre 1804 et 1810. Et c'est lui qui a développé, en effet, cette idée qui est d'actualité aujourd'hui. Quand on pense que, bientôt, ça sera la France, jusqu'alors, c'est l'Italie et c'est la Grèce, où effectivement, on a vu la démission des soi-disant politiciens au profit des banquiers, hein, puisque c'est deux banquiers qui dirigent maintenant ces deux pays, eh bien, on voit ce qui nous attend. Et quand on pense qu'on va aller chercher, on va aller voter pour des prête-noms à des pigasses, pour des prête-noms à des banquiers, pour des prête-noms à des gens qui, effectivement, n'ont qu'un seul souci, c'est de mettre les gens dans une sorte de prison ou de les chasser s'ils sont étrangers, hein. Aujourd'hui, exemple encore de l'État policier, aujourd'hui, c'est soi-disant la fin de la trêve des expulsions, hein. Aujourd'hui, 15 mars 2012, comme c'est le printemps, comme il y a le soleil, on va foutre à la porte 100 000 familles. Voilà ce que les gens qui ont compté, les gens qui sont en difficulté financière, tout ceci à cause, évidemment, de ces fameux banquiers et de ces fameux politiciens. Aujourd'hui, telle ou telle famille parmi ces 100 000 va voir arriver les flics, l'huissier, et puis va voir tous ses espoirs de pouvoir continuer à vivre dans une maison, dans un appartement, dans une location, eh bien, va voir tous ses espoirs disparaître par l'état policier dans lequel nous vivons. Et même aux États-Unis, où ils font pas non plus de cadeaux, eh bien, Obama vient de décider de convaincre les banques de renoncer à des créances, justement, de gens qui ont été, par la fameuse histoire des subprimes, qui ont été dans des situations d'impossibilité de payer leurs dettes, d'impossibilité de rembourser ce qu'ils avaient emprunté. Et apparemment, il a réussi en partie à convaincre les banques de renoncer, de peur, effectivement, d'une explosion d'une guerre civile. Et ça n'est pas seulement Obama, mais aux États-Unis, c'est aussi un petit entrefilet qu'on peut voir dans le journal Le Monde d'hier. Il se trouve qu'un révérend, un pasteur états-unien vient lui aussi de déclarer la guerre aux banques et aux banquiers. Donc je crois que nous avons isolé précisément l'ennemi, et que cet ennemi ne se présente pas effectivement sous son apparence naturelle. Il se cache derrière un monsieur Hollande, un monsieur Sarkozy, un monsieur Mélenchon, une madame Eva Joly. Cet ennemi, eh bien, il faut que nous le battions, et pour le battre, il faut absolument ne pas aller voter.
Oui, Jacques, alors écoute, sur ce thème, pas aller voter, on était tout à l'heure sur l'état policier. Alors on se posait la question par rapport aux auditeurs. Certains auditeurs ont appelé pour nous dire que la jonction sur Internet ne se ferait pas. À partir de 10h, elle aurait été interrompue. Alors si certains auditeurs ont la chance ou la malchance d'avoir la possibilité d'écouter, évidemment, sur la radio, hein, puisque la radio, vous pouvez l'écouter, enfin, sur la TSF, comme on dit, le 89.4 sur l'ensemble de l'Île-de-France, mais aussi vérifier, si vous le voulez bien, si vous êtes équipé d'un petit ordinateur, eh bien, si on reçoit actuellement l'émission Chronique Hebdo sur Internet, hein, ce qui serait un petit peu dommage, puisque des amis de Lyon, apparemment, ont appelé pour nous dire qu'ils ne nous écoutaient pas, que la jonction était coupée. Voilà. Hein? Ou qu'ils ne nous entendaient pas. Exactement.
Alors, oui, il y a aussi...
Alors, c'est dommage, si on fait de la radio, ah, oui. Si on est brésilien...
Oui, oui, surtout en direct.
Oui, d'autant que la radio hertzienne a très mal fonctionné aussi, il n'y a pas très longtemps, donc espérons qu'au moins ça passe par là.
Alors, la possibilité, c'est...
On va quand même pas s'arrêter.
Non, non, mais Jacques, c'est...
Non,
mais il faudrait être sûr.
On va peut-être faire
une petite... partie musicale.
On va peut-être
Et rappeler aussi Chronique Hebdo, le site. Hein.
Exactement, le
site. D'ailleurs, c'est ce que j'ai répondu aux auditeurs. On essaiera de mettre l'émission sur le site puisqu'on l'enregistre. Donc, tout n'est pas perdu pour ceux qui nous entendent pas. Mais enfin, ils peuvent pas entendre nos explications non plus.
Donc, et réagir en direct, hein, puisque c'est en direct. Et donc, c'est important pour cette émission, comme on l'a déjà dit, Chronique Hebdo. Alors, on vous rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40.
Avant de vous quitter, on voudrait vous mettre en garde contre des dangers du nucléaire dont on ne parle pas assez souvent, à savoir les répercussions que le nucléaire peut avoir jusque dans le monde de l'emploi. Dit comme ça, ça peut paraître surprenant, mais n'empêche que ça fait un certain nombre d'années maintenant qu'on mesure un taux de radiation de plus en plus important aux acéliques. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard quand tu seras grand? Je trouvais ça con comme question quand j'étais enfant. Je travaillerai 8 heures par jour, 5 jours par semaine. À ce régime, j'aurai pas le temps de faire ce que j'aime. Des bilans de compétences en stage de formation. Tu te reconnais plus, t'as le vocabulaire d'un patron.
Il y en a 20 comme toi derrière pour prendre ce job qui a l'air chiant comme l'enfer et payé post-op. C'est parti, tu vas produire de la merde en tube et la fourguer à des pauvres gens avec un peu de pub. Ou dans un atelier devenir plus con qu'une machine, jusqu'au jour où en arrivant y a même plus l'usine. Il paraît qu'on veut redonner goût au travail en France, alors faut trouver un goût sucré comme les vacances. De toute façon, nous on a déjà trop de trucs à faire, chouette, utile et rigolo, qui valent mieux qu'un salaire. On veut pas du travail,
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 on veut pas du travail, on veut pas du travail, on veut pas du travail, on veut pas du travail.
Pas des tirs au flanc, parasites et salauds. On fait ça pour le pays, l'idée nous vient d'en haut. Une entreprise monte en bourse quand elle licencie. Comme quoi ne pas bosser, c'est bon pour l'économie. Avec tout ce qu'on produit, sans parler de tout ce qu'on jette. Pourquoi tout le monde n'a pas de quoi se remplir une assiette? Se trouver un toit même en ne bossant que le lundi. Et ceux qui veulent une télé, ils y retournent le mardi. On veut pas du travail, 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 on veut pas du travail.
On espère qu'on va pouvoir compter sur vous. Pour ceux qui se font quotidiennement chier dans un boulot à la con, ça va pas être dur. Et pour ceux qui sont au chômage, il va falloir faire preuve d'un petit peu d'imagination, les gars. Merci, bonsoir, c'était les Malpolis.
Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou. la tourniquette, à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves savates, aux canons à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Voilà, chronique hebdo. Alors, bah, écoutez, vous êtes des privilégiés, tous ceux qui peuvent nous écouter, donc dans un rayon de 60 kilomètres, mais par internet, c'est pas possible. Donc, on espère que les auditeurs, on leur rappellera la semaine prochaine, puisque ceux qui sont pas sur sous internet ne peuvent pas entendre nos explications. Donc, mais on les préviendra pour leur dire qu'ils peuvent télécharger l'émission sur notre blog.
Oui, puis préciser que si, enfin, on va pas tomber, penser qu'il y a des grandes oreilles, si c'est à partir de 10h05 que la liaison Internet s'est arrêtée.
Voilà.
Alors bon, on faut s'informer, hein, par
rapport à ça. Alors
est-ce
que c'est l'État policier?
Ah, bah, écoute, on parle de lui, alors peut-être que les grandes oreilles réagissent, je ne sais pas, on peut.
Oui, oui, c'est vrai.
Ou peut-être ça se fait naturellement, hein, ça se fait naturellement, il y a déjà des machines qui, quand elles entendent certains mots prononcés, par rapport à ce qu'on a dit, par rapport aux élections et aux candidats, peut-être que là, stop, les metteurs.
Alors, surtout que je voulais revenir sur la servitude volontaire, justement. Alors, et puis revenir, alors, ben, justement, on va, je voulais revenir sur ce sujet puisque, bon, tant que ce sont les auditeurs de la région qui peuvent nous entendre, ils pourront peut-être revenir, donc, demain soir pour discuter de la servitude volontaire. Mais le groupe d'Ivry, donc, a commencé à amorcer un débat, enfin, une présentation lundi, parce que justement, il leur était arrivé ce que Jacques a rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire de se faire contrôler et fouille pour les hommes. Voilà. Et donc, le groupe d'Ivry a tout de suite pensé à coller le sujet, c'est-à-dire la servitude volontaire sur cet événement qui se passait. Mais moi, j'étais un petit peu surprise parce que, effectivement, c'était pas de la servitude. Il y avait pas du tout de confusion à avoir là-dessus. Il s'agissait pas, à mon avis, hein, je dis comment je ressens le texte de la Boétie, puisque en ce moment je l'ai pas mal travaillé, pas mal lu, mais à mon avis ça n'a rien à voir avec leur fouille. C'est, il s'agit pas de dire que les gens qui sont qui subissent la violence, la force sont eux-mêmes des serviteurs volontaires. Non, c'est des exécuteurs, et la Boétie le dit bien, et c'est pas de eux dont il s'agit, parce que eux sont victimes, mais dans leur et même dans leur victima, je sais pas comment on peut dire, leur victimisation, ils sont même plus libres que ceux qui les ont contrôlés, quoi. C'est ça, c'est plutôt le mécanisme de la domination que la Boétie essaye de décortiquer et de bien montrer, que la victimisation des populations, parce que c'est vrai, les populations seront toujours victimes, et donc il le dit bien, le peuple soumis est peut-être plus libre que ceux qui appliquent les lois et font régner l'ordre, quoi. Donc là, les serviteurs volontaires, c'est plutôt les flics qui sont que le bras armé de l'État. l'État, quoi. C'est bien ce qu'on avait vu aussi avec Franck Poupeau. On a bien décortiqué ce phénomène-là aussi avec lui. Donc moi, ce que je propose vendredi aussi, c'est de faire aussi un petit retour sur l'histoire aussi, à quelle époque le texte est écrit, ce qui se passe. On l'a vu aussi avec Bourdieu, c'est que faut contextualiser aussi le texte à son époque. Et donc c'est vrai que là, tyran, c'est plus un mot que l'on emploie. Maintenant, on pourra dire c'est la démocratie ou la démocrature, comme Gérard disait. Mais c'est une autre forme de pouvoir. Et le pouvoir a vachement évolué entre 1500, l'époque de la Boétie, et puis de nos jours, quoi. C'est, le pouvoir s'est d'autant plus démultiplié. Et c'est vrai que ça va jusqu'aux couches très profonde, quoi, de la société. Et donc il parle de beaucoup de choses, ce texte. Donc on pourra voir le côté historique, on pourra voir tous les sujets qui sont abordés là-dedans, parce que il parle aussi de l'habitude, ce qu'on avait vu aussi avec Franck Poupeau. C'est quand on est de parents qui ont été serfs et qui ont servi, eh ben finalement, quand on a connu que le servage, on s'en rend même pas compte. On est serf sans
naturellement.
On est serf naturellement. Voilà, c'est ce qu'il disait. Ça va de soi, quoi. Ouais. Et donc ça aussi, dans des petites choses, à notre niveau, on peut le voir aussi. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce qu'ils ont développé, c'est-à-dire est-ce que eux étaient des serviteurs volontaires. Donc Sylvie disait non, on est des serviteurs involontaires. Ça, c'est évidemment, c'est sûr que c'est pas du tout la prétention qu'avait la Boétie de dire quand vous êtes, comme elle dit, le visage sous une botte à clous, vous êtes.
Vous n'êtes ni serviteur ni volontaire.
Non, vous êtes victime et puis c'est tout d'un sale con. Et encore, en plus, c'est ça qui est extraordinaire dans le texte de la Boétie, c'est la manière dont il considère les gens qui. Je reviens au départ. Il y a un roi. Le roi, en fait, lui-même, il n'aurait jamais pu être roi s'il n'avait pas eu 5-6 personnes autour de lui qui lui avaient dit « tu sais, peut-être tu serais bien roi, toi, finalement ». Enfin, les choses se font un peu comme ça, c'est-à-dire une petite cour qui vont où toute la méchanceté de tout cela va s'additionner. Ces six-là vont avoir leur propre sous-fifre, qui vont avoir leur propre sous-fifre, et ainsi de suite, quoi. C'est une pyramide, une espèce de je sais plus comment on appelle ça, d'organigramme, qui fait que ça commence par 5 ou 6 autour d'un roi, mais ça finit par un nombre incroyable d'applicateurs de l'oppression. Donc voilà. Et alors, ce qu'il disait, absolument, c'est vraiment génial, parce qu'il a c'est incroyablement actuel encore son texte, parce qu'il parle de la société du spectacle aussi, comment c'est utilisé, comment est-ce que le roi mais tous ses sous-fifres vont avoir besoin d'abêtir les gens, d'abrutir les gens, de leur donner des jeux et du cirque, comme il dit, hein, et puis du confort, et puis c'est-à-dire il faut que ça profite un petit peu à tout le monde. Tous ces oppresseurs vont avoir un petit profit personnel à appliquer cette oppression, quoi. Et donc il dit quelque chose d'absolument génial, c'est que ces gens-là, mais ils valent rien, ils ne sont rien. C'est-à-dire que c'est même pas des humains, quoi. Alors finalement, celui qui subit l'oppression, c'est lui qui est digne. C'est pas l'oppresseur, même si c'est juste le dernier des sous-fifres, c'est-à-dire le simple flic de base. Il a vraiment rien dans la tête. Et d'ailleurs, ce qu'il dit, c'est que le roi a besoin de s'entourer surtout de gens qui valent rien. Parce que s'il valait quelque chose, ce serait trop dangereux pour lui, quoi. Voilà.
Il dit même que ce ne sont pas des bêtes, ce ne sont ni des humains ni des bêtes, et ça rejoint ce que Gérard disait tout à l'heure à propos du cochon.
Alors, préciser, juge Josy, ce point, pour Étienne de la Boétie, pour situer, donc on l'a déjà dit, 16e siècle, une vie assez courte hein, en année,
oui.
En tout cas.
Oui, parce qu'en plus, c'est un texte qu'il a écrit, il avait 18 ans.
18 ans, donc 1530, hein, 1563, ça devait être en 1548.
Voilà, 1548.
Il a écrit. Et alors, préciser quand même, ça c'est important, il n'a pas été publié de son temps. Il a été publié seulement après sa mort.
Oui, en 74.
14, voilà.
Donc. Mais il était connu et il circulait sous le manteau, figure-toi.
Il devait peut-être être intégré.
Il était très connu, il circulait sous le manteau. Oui. Déjà, puisque Montaigne, son ami...
Il voulait.
Montaigne a été... ils se sont rencontrés, donc, et ils ont... Ils ont eu une amitié très forte. Et Montaigne voulait justement... a écrit des essais dans lesquels il a intégré,
intégré
la servitude, le discours.
Le texte.
À l'intérieur même.
Il s'appelait Contraint au début.
Ah non, mais alors Contraint, justement, c'est là où il faut faire une petite distinction, parce que le Contraint, c'est une appellation qui a été donnée par les protestants qui ont utilisé ce texte, qui l'ont vu à leur profit,
ouais.
Parce que justement on est dans une période de guerre de religion, à une période de répression incroyable contre les protestants, et donc quand ils voient ce texte, ils l'utilisent contre justement, il est tellement dénonciateur de l'oppression que évidemment il l'utilise et il appelle le Contraint.
Voilà. Et publié, alors j'ai vu ça dans le Réveil Matin des Français. Alors on avait pensé pour l'émission Chronique Hebdo, à Réveil Matin, quand on faisait l'émission à partir de 8h, alors réveillez-vous, donc ce qu'on essaie de faire, mais surtout évidemment, on l'a dit déjà tout à l'heure sur l'antenne, sur l'île de France.
Et alors, voilà. Quand même, c'est ce qui est chose bizarre, c'est qu'il écrit ce texte, il a 18 ans, donc dans un contexte qui est très, on peut dire, marqué par les guerres et par les combats de chefs, mais après, il va devenir conseiller au Parlement de Bordeaux et il sera magistrat, quoi. 6 ans après ce texte, il devient magistrat, quoi. Il a fait des études de droit et
ne l'oublions pas. Alors c'est la partie un petit peu obscure.
En plus le Parlement de Bordeaux avait été éliminé avant parce qu'il y avait eu une révolte. Alors j'ai peut-être oublié. Oui, ben justement en 48. Donc lui, il est né je me souviens plus exactement, 1530 lui.
Oui, c'est ça.
Donc en 48, à l'époque même où il écrit, il y a la révolte de la Gabelle qui se passe. Et tout le sud de la... Enfin, toute la partie atlantique appartient à ce moment-là, appartenait au roi d'Angleterre. Et c'est les premières régions qui sont revenues à la France à ce moment-là et qui vont se soulever contre l'impôt de la Gabelle.
Sur le sel.
L'impôt sur le sel, voilà. Et ces régions qu'on appelle la Guyenne, hein, c'était le nom de l'Aquitaine en fait, et les régions proches de Bordeaux vont être les premières à se soulever et les paysans, enfin tout le monde va se révolter contre ça, va aller à Bordeaux et Bordeaux va recevoir très bien tous ces révoltés, tous ces révolutionnaires de l'époque et le roi va quand même leur envoyer une armée de 11 000 hommes pour aller mater cette révolte et va y arriver, hein, va vraiment priver de leurs biens et tous les bourgeois qui ont plus ou moins participé à cette révolte. Et pendant un certain temps, justement, le Parlement de Bordeaux va être interdit. La ville va être complètement soumise. Voilà, donc c'est drôle de savoir que 6 ans après, la Boétie va quand même se trouver dans les premiers magistrats de la nouvelle administration, quoi.
Alors, l'éclairage peut-être du texte.
Mais enfin, moi, je suis pas historienne. Peut-être oui. que ce que je dis.
Mais on reviendra. Non, alors, on aux éditeurs, on dira demain soir. Hein, on rappelle aux auditeurs donc librairie. Pour ceux qui auraient pris l'antenne tout de suite, là, ou un petit peu il y a quelques minutes, quelques instants, Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e, de demain, à partir de 19h30, on reviendra, hein, justement, lecture depuis plusieurs semaines sur ce texte, Servitude volontaire. Alors, la Boétie peut nous éclairer, Jacques, sur un point en particulier qu'on va aborder maintenant.
Non, attends. Oui. Attends, tu m'as dit qu'il y avait une auditrice qui avait demandé des explications sur Thomas Jefferson.
Alors vas-y.
Alors je lui signale que ce texte est paru dans Le Monde le 25 février de cette année. Hein, sauf erreur de ma part, mais en tout cas c'est facile de le retrouver dans le courrier des lecteurs du journal Le Monde de février. Et Thomas Jefferson a été président des États-Unis de 1801 à 1809. Et donc c'est cette référence, donc et c'est ce texte que j'ai lu tout à l'heure. Et c'est vrai que il est complètement d'actualité, puisque au fond on peut dire que le pouvoir est tombé entre les mains des banquiers.
Alors, le thème des banquiers, ben on va vous en parler justement de la société du travail tripalium, hein, c'est-à-dire instrument de torture, comme on le rappelle quelquefois, tout plus sur ce point, puisque ça sera un des thèmes, enfin une petite partie à l'intérieur de ce thème, évidemment, vous le savez, du travail, de la société du travail, comment souffre la souffrance au travail et la souffrance des employés de banque. Alors ça, on va en parler, mais l'éclairage, justement, pour faire un peu la liaison entre ce fameux texte de la Boétie avec la société actuelle, quelques éclairages, eh bien, justement, sur le travail, c'est-à-dire essayer de réfléchir à cet assujettissement personnel, hein, à la servitude du salariat. La servitude du salariat, le contrat de travail léonin, évidemment, le contrat inégalitaire et les raisons de la résignation collective par rapport à cette situation et la peur, nous dit quelqu'un qui a bien raison, de ne plus être lié à un patron par un contrat de travail comme un vassal à son suzerain. Eh bien, c'est bien vu, évidemment, puisque là, la remarque est pertinente. On n'en sort pas et on est bien dans cette société d'esclavage, esclavage moderne, le salariat, que l'on peut évidemment dénoncer, hein, que certains ont oublié, justement, comme certains syndicats, ou ont oublié...
À peu près tous, ils ont oublié l'injustice faramineuse, le crime que représente ce contrat inégalitaire, et on peut même plus parler de contrat, c'est simplement l'imposition, une espèce de loi, la loi de la force, la loi de la jungle. Le patron dit, c'est moi qui ai le fric, c'est moi qui ai l'outil de travail, et par conséquent, vous n'êtes que des serfs, vous n'êtes que des valets, et ça ne vous appartient pas. Alors, quand on pense que des syndicats, je pensais à cette histoire toute récente de ce cadre de la Poste en Bretagne qui s'est suicidé, et qu'on voit dans les commentaires, on voit que les syndicats ont décidé de réhumaniser la Poste. Réhumaniser, mais qu'est-ce que ça veut dire? La première
après
chose
les télécoms,
à faire,
hein,
c'est
après,
de dire, la première chose, c'est de dire, le salarié et les salariés sont propriétaires de l'outil de travail, et c'est eux qui dégagent la richesse, même s'il y a eu un banquier, un investisseur qui avait le fric pour construire une usine, sans les salariés, cet investissement serait absolument inopérant et ne contribuerait à aucun enrichissement de la société.
D'ailleurs, on le voit dans le film, Jacques, dans le film « Parole d'ouvrier ».
Oui, alors sur ce
un très beau film. Oui, allez voir, hein, Parole
d'ouvrier. Deux paroles d'ouvrier. Exactement. Oui. Enfin, et alors, sur le fait même, le souvenir que je peux avoir, parce que je vous disais tout à l'heure, donc un compositeur sur une télé, et dernièrement, écoutez bien, peut-être on n'en a pas parlé entre nous, mais pour les auditeurs, rappelez ça, que sur une chaîne de télé, Arte, vous direz c'est un peu différent, il y avait un débat il y a une quinzaine de jours, où on a évoqué, c'est en liaison avec ce que tu viens de dire, Pierre-Joseph Proudhon, on a parlé du fameux obélisque, pour une fois. et d'expliquer pour comprendre. Alors un mec était là en disant je vais vous expliquer Pierre-Joseph Proudhon face à monsieur Gisbert qui était là. Monsieur Gisbert qui avait peut-être jamais qui était complètement effaré. Alors il racontait
et c'est qui Proudhon
hein, c'est ce qu'il alors, a dit. Alors il avait l'air quand même de connaître un petit peu mais de rappeler le vol justement parce que l'histoire il l'a expliqué comme ça. Il a expliqué que on voulait monter l'obélisque au milieu de la place de la Concorde, si c'était 200 grenadiers ou 200 travailleurs ou 200 maçons qui étaient là pour lever cet obélisque, hein, pour avec une heure de travail, eh bien ça faisait 200 heures rémunérées. Et si on avait employé un seul maçon, un seul travailleur, et on l'avait rémunéré 200 heures, eh bien lui, il n'aurait pas pu monter l'obélisque. Évidemment, il expliquait à partir de ça, vous voyez bien que la rémunération est la même, mais il y a quelque chose qui colle pas là-dedans, c'est qu'on a volé, c'est-à-dire que le travail collectif qui a permis de lever l'obélisque, alors que s'il avait été individuel, eh bien, il n'y aurait eu rien de fait. La rémunération a été volée. Voilà ce que c'est que le vol capitaliste. Alors, Gisbert a écouté ça. Et donc, les gens qui étaient là, apparemment, ils n'avaient pas jamais entendu cette chose, Jacques, je trouve, ce qu'a dit Proudhon.
Tellement évidente.
Tellement évidente et qui parle, tellement parlante, que l'école de la République devrait s'en charger de dire dans les cours, chaque année, de rappeler cette histoire de l'obélisque, et je pense qu'instantanément, les gens comprendraient qu'ils sont volés, évidemment, dès qu'ils sont plusieurs à effectuer un travail, et c'est bien ça le vol capitaliste, comme je parlais des grands criminels tout à l'heure, des banquiers.
Oui, mais l'école, malheureusement, est capitaliste aussi.
Évidemment, elle va pas. Mais de temps en temps, alors encore une fois, sur une chaîne, vous allez dire, vous voyez qu'il n'y a pas de censure dans les grands médias. Alors, le lien que l'on veut faire avec ça, je ne sais pas si vous avez peut-être entendu de ce Wall Street Management, parce que les salariés des banques dénoncent les conditions épouvantables de travail, parce qu'ils se font en particulier, là on évoque une société dite générale, on ne va pas faire de publicité, avec, vous vous souvenez, une affaire Kerviel, où soi-disant quelques milliards avaient été partis, là avec les fameux jeux de la finance, et bien depuis, les employés de banque se font injurier par les clients, se font insulter par les clients et ils n'en peuvent plus. Alors ils n'en peuvent plus et donc ils ont essayé de faire.
Et j'ai même vu que Kerviel, il avait plus d'avocat parce que son affaire doit venir prochainement et plus personne ne veut le défendre.
Et on parlait du salariat. Alors évidemment, une femme, voilà ce qu'elle déclare, employée de banque dans cette société dite générale. Je trouve dommage d'avoir honte de dire que je travaille en banque. Voilà sa déclaration. Je trouve dommage de vendre tout et n'importe quoi pour rester dans le trend. Alors voilà le trend. Hein. Je trouve dommage d'en vouloir à mon collègue car il a souscrit un téléphone à une petite mamie à l'accueil qui apparemment n'avait pas besoin.
Alors, tu as vu à propos de ce que tu dis qu'il y a un cadre de Goldman Sachs, une des plus grandes banques américaines, qui vient en effet de dire et de démissionner et de dire qu'il est scandalisé parce que la banque n'a qu'un objectif, c'est de faire des profits pour elle-même et qu'elle se fout de la gueule de ses clients, et qu'elle traite ses clients de marionnettes. Il y a un mot anglais pour dire ça.
Oui.
Et de
puppets,
tu vois.
Puppets. Puppets show, peut-être. Alors, pour rappeler. Donc cet article, alors aussi parce que vous savez que issu l'information du journal Le Monde, comme on l'appelle aussi, vous savez l'autre appellation quotidien vespéral des marchés, alors il parle dedans des diatribes politiques contre la finance, folle. L'ennemi sans nom, sans visage, devenu un thème de campagne. Mais moi, quand on lit ça, évidemment, d'un seul coup, bon sang, mais c'est bien sûr. L'ennemi sans nom et sans visage. Non, il y a des noms, il y a des visages. Les banquiers, on sait qui c'est. Les personnages qui sont dans le CAC 40, eh bien, leur nom, leur identité, on les connaît. C'est pas la finance sans nom et sans visage. Et là, tu évoquais tout à l'heure Josy Pierre-Bourdieu, il le rappelait. Là aussi, on a un petit peu oublié, on fait passer ça comme des contraintes mondialistes sans savoir qu'il y a des individus derrière.
Ils sont très malins parce qu'ils se cachent. Ils se cachent et pas seulement en évitant d'être trop cités personnellement, mais ils se cachent derrière leur prête-nom. Et qui c'est leur prête-nom? C'est Hollande, oui, c'est Sarkozy, c'est voilà, Mélenchon, c'est tous les gens qui, sont là. Et quand ils seront au pouvoir, ils continueront à respecter les ordres des fameux banquiers du CAC 40.
Alors, le travail, évidemment, vous vous en doutez, on l'avait sur cette antenne, et en particulier dans Chronique Hebdo, depuis très longtemps, une rubrique qui s'appelait Harbart Marfrey, et qui était quand même prémonitoire de ce qui allait se passer, c'est-à-dire la sidération devant l'Allemagne. L'Allemagne qui devait, à certains candidats, vous vous en doutez évidemment, qui disait « c'est merveilleux, l'Allemagne, elle n'a pas de problème, le problème de boulot, enfin tout ça là-bas, un taux de chômage un peu inférieur ». Alors là aussi, il faut regarder, parce que les chiffres, c'est totalement faux. Et puis deuxièmement, on peut dire que la précarité, eh bien, elle est surmultipliée, démultipliée, comme vous voulez, en Allemagne. Le nombre de millions de gens qui ont des boulots de merde et des boulots de servage à des prix extrêmement bas, et on les oblige à le faire, encore une fois, vous le savez, puisque c'est dans l'air du temps, et de dire, si vous faites pas ça, ben, il y aura rien pour vous, il y aura pas d'allocation. Alors, la question du travail, là encore, on l'a vu, puisque Jacques, tu le rappelais tout à l'heure, le canard enchaîné nous a rappelé, c'est la première page,
la valeur travail dans les choux.
Voilà, dans les choux. Donc c'était mercredi, hier, pour le canard enchaîné. Et là, la bagarre de chiffres. Alors apparemment, la bagarre de chiffres dans le fameux et fumeux débat entre un premier ministre, vous parlez au premier ministre de la France, qui s'appelait Monsieur Fabius, souvenons-nous, donc qui est toujours là. Politicien à vie, arrimé évidemment, et qui, par rapport à ce débat fumeux contre le chanoine, eh bien, avait déclaré, il y a, on fait les comptes, on va vous montrer les engagements 2007, il y a 1 million de chômeurs en plus, par rapport, donc c'est un résultat formidable, une réussite grandiose, par rapport aux engagements, évidemment, qui n'entraînent que des promesses que ceux qui les écoutent, et donc le million, et l'autre, le menteur, évidemment, mais ils sont tous menteurs, donc dans le bal des menteurs, eh bien, il parlait de 400 000 chômeurs. Et alors, le canard enchaîné a pris ses calculettes, et puis, il a été voir, alors, les statistiques, au niveau de la communauté européenne, enfin, ses chiffres, apparemment, et puis, il a été revoir de plus près, et donc, il en arrive, lui, depuis, on est en 2012, donc 2007-2012, 1 200 000 chômeurs en plus. Voilà le résultat. Alors, ça veut dire quoi, Jacques? Alors, évidemment, la valeur travail dans les choux. Ça veut dire que ces gens-là aussi, une nombreuse catégorie, ne sont pas indemnisés ou faiblement indemnisés dans des conditions extrêmement dures, de plus en plus dures, parce que on essaie, vous avez entendu ça, pour le fameux RAS ou RSA, j'appelle ça rien à signaler, ou revenu de solidarité active, qui est une escroquerie, rien que le nom, enfin c'est énarchique, vous le savez, c'est l'ENA, ils pondent des trucs, des conneries pareilles, et de dire, si vous n'acceptez pas quelques heures de servilité, puisqu'on en parlait tout à l'heure, du servage, eh bien on vous sucra cette allocation. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le vilain punch show de dimanche dernier, par rapport des images évidemment de horribles, absolument horribles, parce que des relents de l'histoire, on pouvait voir quand même, revoir des séquences de l'histoire, de l'histoire du XXe siècle, l'histoire tragique du XXe siècle avec certains dictateurs. Et là encore, le discours qui a été de stigmatiser par un discours xénophobe, alors terrifiant, de monsieur le chanoine, on va pas prononcer son nom pour pas avoir des problèmes dans la bouche, et monsieur le chanoine, par rapport à ça, a fait siffler, il y avait une quarantaine de crétins, 40 000 crétins qui étaient là, enfin bon, de monsieur Depardieu, enfin bon, on lui dit, il est sympa, non, ça, hein, bon, le, on peut pas, ça, oui, non, mais vrai, qu'un spécimen, qu'un représentant, Jacques, justement, une symbolique, par rapport à, et faire stigmatiser aussi les gens qui étaient chômeurs, et on a vu ça, en les traitant d'assistés. Voilà. Et eux, ils ne sont pas des assistés, les milliardaires dont on vient de parler, tous ces politiciens. Ils ne sont pas assistés, eux, ils sont nuisibles. Et là, la terminologie par rapport à eux est de faire siffler ces gens-là, voilà donc d'appeler à la haine et d'appeler à la guerre civile. Voilà de quoi ces individus extrêmement dangereux, hein, au sommet de l'État, voilà de quoi ils sont capables par rapport à ça, de stigmatiser une partie de la population et de faire que des catégories de la population en viennent à se battre entre eux. Voilà hier, un peu la situation.
Hier, sur je ne sais plus quelle chaîne, il y avait une émission sur la délation. Je crois que c'était sur la 3.
C'était hier soir.
Eh bien, la délation, effectivement, on faisait tout un discours sur le fait que c'était parce qu'il y avait eu la guerre, c'était parce que il y avait les Allemands, que les gens avaient autant dénoncé leurs voisins, leurs petits camarades, les avaient traînés à la Gestapo, à la commandanture. D'ailleurs, ce qui m'a étonné, c'est que le mot commandanture n'a même pas été prononcé dans ce documentaire.
Ouais.
Mais ceci étant, je pense que le délateur, c'est lui en effet dont parle la Boétie, parce que il veut être non seulement il veut se venger de son voisin qui lui plaît pas, mais en plus il veut se mettre au service du tyran, il veut se mettre au service du plus fort, et donc je crois que dans toutes les sociétés policières, la délation, le fait de dire ben l'autre, c'est il plaît pas au tyran, donc on va le dénoncer et on va l'injurier et on va pousser des cris quand le tyran nous dira allez crier contre les chômeurs qui ne font rien, etc. Une société qui se décompose, comme tu le dis, c'est comme ça qu'on provoque des guerres civiles.
Voilà, exactement. Alors, le thème là, justement, donc le donneur de leçons, hein, vous savez, comme disait cette personne sur un plateau télé, Monsieur Azoulay, par rapport à ce qu'il voulait dire de tout le bien qu'il pouvait penser de ses impétrants, de ses candidats, là aussi donner l'exemple, et on voit par rapport à ça le canard enchaîné. Alors, rigolons un petit peu, justement, par rapport à cette ambiance, vous savez quand même que le 15 mars, ça reprend les expulsions. C'est-à-dire les expulsions, alors il y a plusieurs, là aussi, si on banalise ça de toute manière, avec une extrême violence, quelquefois la gendarmerie est là, les huissiers sont là, les gens sont virés, hein, avec les enfants à constater, donc évidemment la société du spectacle, spectaculaire marchande, nous parle de ce qui se passe en Syrie, évidemment c'est une tragédie, mais pour des gens dans cette société où ils peuvent agir directement. Là, tu parlais des voisins et de la délation. C'est d'intervenir directement plutôt que d'être devant le fenestron et de se lamenter et de pleurer sur des images, évidemment, totalement ignobles et évidemment des dictateurs syriens pour lesquels une personne habitant dans ce pays peut pas faire grand-chose dans son intervention, à part, évidemment, peut-être intervenir dans différentes formes de protestation. Mais l'action directe, l'intervention directe serait possible. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la baronne de l'Élysée ? Elle nous dit simplement dans son petit journal, nous sommes des gens modestes. Alors si ceux-là sont des gens modestes, évidemment, ils doivent risquer, avoir peur. Le 15 mars, c'est peut-être ce qui va arriver à l'autre, de se faire expulser le locataire de l'Élysée qui va se faire virer. Mais en attendant, la famille, justement, puisque j'en parlais tout à l'heure, le côté nuisance de ces personnages, eh bien, dans la famille, on rappelait, c'est le canard enchaîné, que un des fistons, alors là aussi, puisque c'est un lien avec la royauté, des prénoms choisis, a été rapatrié, vous l'avez vu, d'Ukraine, parce qu'il avait un petit mal au ventre, ça a coûté 33 000 euros. Alors, faut le signaler, lui, il fait du rap, hein, il y a un rappeur dans la famille. Alors, rap, je ne sais pas, j'ai pas écouté, et c'est pas la question, mais par rapport, les 33 000 euros, c'est quand même le sujet. Il y en a un autre aussi, vous le savez, le fameux prince Jean, qui lui a eu des démêlés tapant.
Il voulait tout de suite être le grand patron de la défense.
Là, exactement, tu te souviens, voilà. Mmh. Et puis ses ennuis avec des bagnoles, enfin bon, de scooters, ça peut arriver évidemment à chacun d'entre nous, à condition d'avoir un scooter, mais ça se termine pas dans les mêmes conditions.
Oui, c'est ça.
Ça peut se terminer en plusieurs jours de garde à vue.
Oui,
hein,
oui.
Voilà, Jacques. Et alors le troisième.
Oui, pour toi, c'est ça. Trois jours de garde à vue, ou comme la femme dont tu parlais tout tout à l'heure, ouais, emmenée parce qu'elle a osé protester contre la contre l'interpellation d'un noir, et bien pour le fils du chanoine, c'est au contraire le flic qui se fera engueuler.
Et le troisième, alors le troisième, le petit Louis dont vous avez entendu parler, il s'ennuyait au château, enfin ça va peut-être pas durer longtemps, et il s'entraînait avec un pistolet à billes qu'il avait reçu en cadeau à Noël en tirant sur une fliquette en faction rue du Faubourg Saint-Honoré.
Alors, oui, de l'Élysée, eh, oui.
Voilà, de l'Élysée, quand même à signaler, parce que quand on voit la répression...
S'il avait eu un flashball, voilà, ça aurait été bien.
Exactement, alors ça l'histoire du flashball, et puis quand on voit la répression dans certains quartiers, comme ils disent, ils ont ce mot-là à la bouche.
Et remarque, je pense que puisque ces trois enfants du chanoine sont des criminels en puissance, sont des délinquants, et ben je pense qu'en effet, il y a un gène.
Oui,
tu sais qu'il y a question, en effet, de
faire
pour les gens qui ont malheureusement eu des démêlés avec la police ou la justice, il était question de faire une espèce d'analyse pour voir si finalement dès la naissance le bébé n'est pas un dangereux futur délinquant. Alors là, on a le cas de la bande du chanoine.
Et rester alors Jacques est su, puisque c'était une séquence people dans la famille, n'oublions pas le père, parce que c'est comme le jeu des sept familles, qui était venu justement en France de Hongrie, donc immigré hongrois à l'époque, tout de suite après la deuxième guerre dite mondiale, et qui dormait sur des bouches de métro parce qu'il n'avait pas de pognon. Et à l'époque, eh bien les flics, si ça avait été les flics de 2012, peut-être qu'il aurait été à son tour arrêté
et condamné, et qu'on n'aurait pas de
chanoine.
Bah oui.
Alors voilà un peu, on parlait des démêlés de l'histoire, voilà un petit peu cette histoire.
Alors, oui, alors vous n'avez pas précisé que la gendarmette, la fliquette, oui, là, qui a reçu
les billes,
les tomates cerises. Hein,
les tomates cerises et les billes, pistolet à billes.
Oui,
hein,
oui.
Alors, voilà.
Elle a prévenu ses supérieurs, et puis finalement, elle porte pas plainte.
Ah bah voilà, alors
il y a l'intérêt, si elle veut voir de la promotion.
C'est ce que l'on disait par rapport au travail actuellement, les conditions évidemment de la souffrance et puis des hiérarchies comme jamais. Eh bien, le moindre, hein, encore une fois, pas de côté.
Mais c'est la photo des élections, il s'ennuie, il est tout seul, il est resté tout
seul
à la maison.
Non, mais par rapport au boulot, la sanction tombe et on voit bien, si tu veux, de faire cette histoire-là par rapport qui a une symbolique, hein, c'est-à-dire de cette violence par rapport d'État, ce régime policier, et là encore une fois, comment les fils du tyran, eh bien, ou les enfants, là aussi, ou la baronne, la manière dont eux sont traités, hein, comme on dit, et pas maltraités, et évidemment, ce qui est réservé, la violence qui est réservé à l'ensemble de la population.
Bah oui. On va peut-être faire une petite pause.
Oui, bien sûr.
Et essayer de savoir si on nous a...
Est-ce que par hasard...
Oh, Josie, non, c'est une partie musicale,
oui,
avec des chansons sélectionnées justement dans la discothèque de Chronique Hebdo.
Et de la vraie chanson française de qualité.
Je
oui,
pense.
On espère.
Les
on
auditeurs
demander,
nous le diront. Voilà. Appelons au 01 43 71 89 40.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas, c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais il y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Il y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupable, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petit l'histoire de l'être humain, c'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou, qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. 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 Seul dans cette nuit imprévisible, noire de ces deux mains de vie fragile, seul avec tes mains dans ton argile. Noir, debout à l'heure où tu es cible, seul dans ton malheur inaccessible, noir de ces volcans d'idées terribles, seul dans le carcan de l'impossible. Seul, sous le fardeau des mots sensibles, noir du grand silence de l'âme libre, seul dans tes errances, tout est possible. Tout est possible.
Jusqu'à la source, ne rase pas les murs, ne marche pas de biais. Tiens-toi droit, fatigue-toi, lève-toi tout, remue tes os. Éloigne-toi du sol, dans l'œil du menuisier, dans l'œil du bois. Roule dans les copeaux, prends le temps de lire. Ne crains pas les têtus, allume où tout s'éteint. Va devant, désigne-toi, arme les mots de l'âge beau. Regarde où tu commences, puisqu'il faut épouser l'art d'être né.
Voilà, au auditeurs de Radio Libertaire. Donc, alors, des nouvelles, toujours Internet qui ne fonctionne pas. Et puis, alors, une nouvelle pour l'émission suivante, c'est que Marlène est souffrante, donc il n'y aura pas d'émission de rimes et de notes. Et peut-être, bah oui, malheureusement, alors, mais les auditeurs par Internet, justement, ne seront pas informés. Sauf si d'ici là ce soit réparé, et ben nous, du coup, puisqu'on vient de nous annoncer ça, peut-être qu'on fera une petite prolongation. Hein,
oui, c'est possible. Oui, bien sûr. Surtout si par hasard, à partir de midi, la Internet remarche.
Oui,
on
voilà.
pourra donc faire un petit résumé de ce qu'on a déjà dit. Alors, on a abordé deux sujets. Le premier étant sur l'État. Enfin, qu'est-ce que c'est que l'État? On va pas revenir là-dessus. Le deuxième, c'était le travail, hein, avec effectivement un petit aparté qui n'avait pas beaucoup de rapport avec le travail, sur le fait qu'il y a des enfants de chanoines qui s'amusent à faire des conneries et qui sont absolument pas poursuivis, hein, mais ça c'est leur gêne, hein, qu'est-ce qu'on peut y faire?
Et à propos du travail, s'il te plaît, Jacques, puisque ce film était bien là, de Mémoire d'ouvrier, en juste deux mots, puisqu'il se joue, il est sorti le 7 mars, je crois, et donc qu'on peut le voir à Paris, il faut absolument aller le voir. C'est l'histoire de la Savoie et
de l'industrie en Savoie.
De l'industrie, voilà, en Savoie, et de la construction des barrages et des grandes fonderies, les gens qui... Et puis surtout aussi, c'est un événement à Cluses qui a eu lieu dramatique.
En 1909,
hein,
oui.
En 1909, où c'est pas la police qui a tiré sur les ouvriers, c'est carrément les fils des patrons.
Voilà,
pour
c'est
en
ça.
Revenir aux fils des uns, là, c'est des jouets inoffensifs, si on peut dire, mais justement à la Cluses, ce sont les
enfants. Non, c'est pas la Cluses, c'est à Cluses.
À Cluses.
À Cluses, donc dans la
donc
vallée, je crois, de la Maurienne.
Les quatre enfants d'un patron de fonderie, parce que les ouvriers étaient manifestés, ont tiré dans la foule et ont fait un mort carrément. Voilà, les quatre grands enfants, les légataires de l'usine.
Oui, alors donc c'est un film qui développe à la fois comme tu viens de le dire, le comportement d'un patron qui se croit tout permis, y compris de tuer son serf, hein, son esclave, comme dirait Gérard, mais parce qu'il fait grève ou parce qu'il manifeste, donc c'était quand même pas si vieux, c'était au début du siècle, hein, du XXe siècle, en 1909, je crois, donc dans cette vallée de la Maurienne, où ont été mis en place des barrages hydroélectriques qui ont permis effectivement de déployer à une échelle beaucoup plus large tout ce qui est lié à l'énergie électrique et donc également la construction, comme à Cluses, de hauts fourneaux. Et puis donc il y a toute l'histoire de cette industrialisation de cette partie de la Savoie. Et puis aujourd'hui, évidemment, la désindustrialisation, c'est-à-dire au fond la fermeture de ces usines qui peu à peu ont été rachetées par des multinationales, par des groupes étrangers. Le dernier en date, c'est Rio Tinto, donc une multinationale australienne qui a effectivement racheté une partie des fonderies ou une partie des usines de cette vallée, et qui laisse l'outil de travail dépérir de façon à ce que elle puisse justifier, cette multinationale, l'abandon carrément de cette activité pour des placements à rentabilité plus efficace. Et donc ce sont les ouvriers et un certain nombre de gens qui s'intéressent au sujet, qui développent dans ce film, qui développent cette espèce de bataille qui, elle aussi, comme on le disait tout à l'heure, ne pourrait avoir une issue bénéfique que si les ouvriers et les populations qui restent, parce qu'évidemment, compte tenu de la progressive désindustrialisation, il y a moins de monde dans ces vallées de la Maurienne, dans cette région de Savoie, mais l'issue de ce combat contre la multinationale Rio Tinto ou contre les autres multinationales qui n'ont absolument qu'un souci, c'est faire du profit et donc de fermer des usines, de chasser des ouvriers, de détruire des structures sociales et des communautés d'habitants, eh bien ça ne peut être que si les populations qui sont là, si les ouvriers qui sont là se battent pour dire, comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes les propriétaires de ces usines, de cette usine, et nous refusons les diktats qui nous viennent des multinationales ou des patrons. Eh bien, je crois que malheureusement, il n'y aura pas de solution possible, puisque nous sommes en effet dans un système dans lequel on le voit tous les jours. Hein. On voit que aujourd'hui, il y a une manifestation, je crois, des ouvriers, je ne sais plus quel est le nom, c'est par ArcelorMittal, mais enfin c'est une autre usine
qui vient
à Paris.
C'est ça, ouais, de voir
à propos d'ArcelorMittal, le pitre de l'Élysée, là, Sarkozy, a invité les syndicats à venir le voir. Et pour l'instant, ils n'ont pas répondu. Ce qui serait bien, c'est qu'enfin ils prennent conscience de leur dignité, ces syndicats, et refuser d'aller s'acoquiner ou d'aller même échanger des paroles avec un personnage aussi odieux, aussi non seulement qui a menti tout au long de sa vie, comme il le fera encore quel que soit son avenir, mais qui effectivement n'a que mépris pour la classe ouvrière, n'a que mépris pour le peuple, bien qu'il se prétende aujourd'hui son défenseur en utilisant les arguments les plus abjects du Front National. Hein. Donc je crois que pour revenir à ce film, eh bien c'est tout à fait important, enfin et intéressant que vous puissiez aller le voir. Nous l'avons vu au studio Saint-Michel, mais je pense qu'il doit peut-être sortir dans d'autres salles à Paris et en province.
Oh non, pas trop, hein. Oui, peut-être en province.
S'il faut surveiller, non, mais dans de nombreux comités d'entreprise, à l'initiative des syndicats français, on pense que des milliers de comités d'entreprise vont projeter ce film sur le temps de travail, puisque c'est quand même la mission première des syndicats dans ce pays. Alors, pour la question travail, avant de peut-être passer à la question nucléaire, Jacques, rappelez quand même une bonne nouvelle. Eh bien, c'est que les Suisses ont voté, vous le savez peut-être, et ont rejeté par référendum, ils font des référendums, vous le savez en Suisse, le passage de 4 à 6 semaines de vacances. Et la raison était, c'est qu'ils s'emmerdent en vacances, donc ils veulent continuer à bosser tout au long de l'année. Alors les patrons leur ont dit, vous inquiétez pas, bientôt les vacances seront supprimées. Donc c'est une bonne nouvelle qui va encourager justement l'ensemble des travailleurs, comme on le disait. Les Suisses voient ça d'un autre... Autrement, mais on peut le penser, hein, puisque c'est quand même important les conditions de travail là-bas, et apparemment sur la durée de la semaine, et puis sur le temps d'arrêt, hein, par rapport d'une forme d'esclavage, hein, puisque vous le savez, les vacances, c'est simplement octroyé pour que les gens récupèrent leur force de travail pour repartir, comme ils disent bien souvent, vous savez, c'est ça, au mois de septembre, la rentrée, hein, à nouveau pour être en forme, efficace, hein, comme on le dit par rapport à ça pour le syndicat. Je vous parlais tout à l'heure de la banque, hein, c'est l'injonction du rendement, c'est ça, le Wall Street Management, c'est une bonne formule, hein, le Wall Street Management, l'injonction du rendement, la course au profit et la productivité au détriment des clients. Alors voilà la bonne nouvelle qui nous vient et on va peut-être passer voir comment les Japonais arrêteraient les centrales nucléaires. On ne sait pas comment ils peuvent faire. Eh bien, ils arrêteraient. Ils en ont deux encore en fonctionnement, réacteurs, sur la plus de 50 réacteurs au Japon. Et ils prévoient, dans le mois qui vient, d'arrêter l'ensemble des réacteurs au Japon. Voilà.
Et je crois qu'ils ont raison, parce qu'il y a encore eu deux séismes.
Oui, oui. Alors, Et comment font-ils au Japon pour continuer sans centrale nucléaire? Bah, apparemment, ils y arrivent. Avec,
ils ont fait des réductions de consommation. D'électricité.
Oui. C'est ça qui est intéressant. Oui, oui. C'est que c'est une possibilité. C'est pas comme on nous le dit, la bougie. Apparemment, les Japonais, actuellement, enfin, dans ceux qui restent, hein, parce que là aussi, on rappelait Fukushima, c'est une région, ça correspond à une région française, qui a été totalement contaminé. Alors, c'est important de le signaler, peut-être Jacques, de revenir sur ce qui a été fait dans l'Hexagone dimanche dernier. On revient aussi, puisque faut le se rappeler, c'était le 11 mars et c'était les 1 an, c'était des manifestations internationales contre, évidemment, rappel de Fukushima, du désastre, hein, de la tragédie de Fukushima, on peut l'appeler comme ça, puisqu'on est, on pense peut-être il y aura 1 million, hein, on l'a déjà dit, sur 10-20 ans de gens qui vont mourir du cancer. Voilà.
Sans compter les zones qui seront pratiquement pour l'éternité ou presque, hein, pour des millions d'années ou des milliers d'années, qui seront inexploitables, voilà. Qui seront toujours à un degré plus ou moins élevé radioactives, oui. Et donc où il y aura plus la place pour l'humanité. Je crois que c'est d'autant plus tragique pour le Japon que c'est à la fois un espèce de symbole terrifiant que ce pays qui a reçu 2 bombes atomiques pour la fin de la guerre, Hiroshima, Nagasaki, ces 2 bombes atomiques qui auraient dû être, et même il n'y a pas prescription pour les crimes contre l'humanité, je crois qu'aujourd'hui, les descendants, ou s'il y a encore des survivants, à ceux qui ont décidé de balancer une bombe qui a tué des centaines de milliers d'individus, quand on pense qu'au tribunal de La Haye, il y a 7 ans qu'on pourchasse un petit chef noir d'un pays d'Afrique et qu'il est en ce moment sur la sellette et qu'on ne poursuit pas tous ces chefs d'État, hein, qui ont osé ainsi, après avoir prétendu qu'ils défendaient la liberté et qu'ils défendaient aussi la vie de millions d'hommes, balancer 2 bombes qui ont fait des centaines de milliers de morts. Alors donc, à Fukushima, il y a eu sur Arte notamment des documentaires très intéressants qui montrent à quel point la bataille contre le nucléaire a besoin d'être revivifié, parce que on voit à quel point les ingénieurs, le corps des mines notamment, qui dirigent pratiquement tout ce qui est le nucléaire et qui là encore ont comme prête-nom les hommes politiques, un peu comme les banquiers, eh bien ils font absolument ce qu'ils veulent. Et quand on voyait interroger le directeur général de l'agence de sécurité nucléaire, je sais pas si tu l'as vu, quand on le voyait interrogé par un journaliste, je sais pas s'il était français ou suisse, et que sur la dangerosité du nucléaire, et que ce personnage, bien installé derrière un magnifique bureau, avec un grand sourire assez condescendant, disait, mais enfin, le nucléaire, ça n'est pas du tout dangereux, ne nous parlons pas de millions d'années, regardez, écoutez bien, vous allez comprendre, les bâtisseurs de cathédrales, quand ils ont bâti les cathédrales, ils n'ont pas du tout imaginer que leur construction pourrait être détruite dans les centaines ou les milliers d'années qui allaient suivre cette construction. Alors, le nucléaire, c'est pareil. Hein, les constructeurs de centrales nucléaires n'ont aucune raison, tout est garanti, tout est sûr, n'ont aucune raison de craindre que dans l'avenir, l'humanité disparaisse à cause de leur construction. Alors, c'est un personnage comme ça, quand tu vois un mec comme ça, qui compare les constructeurs de cathédrales avec les constructeurs de centrales nucléaires en disant vous n'avez rien à craindre, mais c'est un mec qui devrait être enfermé dans un asile.
Et alors la dangerosité.
Il disait aussi la confiance. Il faut faire confiance à ceux qui travaillent, à ceux qui ont d'autres responsabilités que vous. S'il n'y a plus de confiance, alors où est-ce qu'on va et tout.
Mais alors, donc, par rapport à ce délinquant, par rapport à cette personne de discours évidemment dangereux et tragique, la réponse, c'est exactement ce qui s'est passé au Japon avec TEPCO, tous les experts japonais, et la mascarade du gouvernement japonais a coquiné totalement avec TEPCO. Et là, évidemment, il y a un retournement. Et
pour les auditeurs qui connaîtraient pas, TEPCO, c'est Areva en France.
C'est l'EDF. EDF, Areva, c'est lié, évidemment, par rapport à ce qui se passe au Japon. Mais pour dire ce retournement, donc, la population, là-bas, n'a plus confiance, et la population ferait pression, justement, sur les quelques centrales ou sur les deux réacteurs restants pour les faire fermer. Alors, on disait justement, par rapport à la situation française, le bourrage de crâne, c'est exactement ce que tu viens de dire par rapport à tous ces personnages qui occupent l'ensemble des médias. Eh bien, on voit, et là on s'inquiète, après avoir vu hier ce documentaire sur la délation du temps de l'occupation, nous sommes occupés ici en France par TEPCO qui s'appelle Areva, par EDF et par tout le lobby politicien qui soutient. Évidemment, c'est la même chose. Et le résultat de ça, eh bien apparemment, méfions-nous encore une fois des sondages ou des enquêtes d'opinion, seuls 13% des Français se disent opposés à l'énergie nucléaire. Voilà, là on le voit aussi. Et là, on voit la même chose au Japon. La même chose au Japon avant Fukushima, c'était la même proportion de Japonais qui étaient opposés à l'énergie nucléaire. Alors, vous avez le résultat qui vous a été donné au Japon. Il a été donné le résultat au Japon et vous l'aurez, évidemment, puisqu'on l'a annoncé. Certains mecs de la sûreté nucléaire en France a dit « Si ça se passe en France, ça sera un accident extraordinaire. » Parce que on a tout prévu, mais ce qu'on n'a pas prévu et qui peut arriver, vous savez, Monsieur Lacoste, c'est ce qu'il a dit, un accident majeur, aura des conséquences, et ben peut-être qu'on sera au-delà de Fukushima, parce que n'étant pas prévu, c'est un peu la même chose de ce qui s'est passé à Fukushima, le tsunami en particulier, et donc les conséquences ont été gigantesques. Alors là, la manifestation qui a eu lieu dimanche dernier avec dans la région Lyon-Avignon...
Alors est-ce que tu as eu des échos?
Ah oui, alors on a des échos par rapport à ça, donc une déclaration quand même d'une personne de signaler, elle avait bien raison de le dire, que c'est la région la plus nucléarisée d'Europe, puisque la France est le pays le plus nucléarisé de la planète, eh bien là, on a pour cette zone-là la plus nucléaire. On est quand même champion, Jacques, c'est pour ça qu'il faut pas quand même, on dit donc le succès de la,
on a
de,
le premier
la
prix,
science et de la
médaille
l'industrie
d'or.
Française.
On a le César du nucléaire.
Il faut remarquer quand même, c'est remarquable, si peu justement d'opposition par rapport à ça. On voit que les gens dans ce pays ont tout compris, et en particulier donc une personne revenait sur ces chaînes humaines. Alors moi j'ai dit c'est un peu léger, c'est un peu gentil, ça fait un peu si tous les gars et les filles du monde, ne l'oublions pas, voulaient se donner la main, et en particulier rappeler que on avait vu ça avec Lou Marin la semaine dernière, cette déclaration de cette personne, c'est en descendant dans la rue, en se mobilisant par dizaines de milliers, que les Allemands ont obtenu une décision de sortie du nucléaire d'ici... Alors, 2022, parce que c'est tellement dangereux et grave qu'on peut pas l'arrêter immédiatement, alors même que leur chancelière, Madame Merkel, on va le dire aussi pour les auditeurs s'ils ne le savent pas, est favorable à l'atome. Elle soutient justement l'énergie nucléaire. Voilà, on voit, et Lou Marin nous l'avait expliqué un petit peu.
Et d'ailleurs, cette décision de l'Allemagne de sortir du nucléaire, j'ai encore vu il y a peu de temps ou entendu à la radio que elle était toujours très fragile. C'est-à-dire qu'il faudra toujours se battre parce qu'il n'y a pas que Merkel et il y a toutes les grosses industries et tous les ingénieurs.
Il y avait eu une décision avant elle d'arrêter et elle était revenue dessus aussi. Donc c'est vrai que c'est un combat en permanence. Ah ben
justement, c'est ce qui
hein.
est, c'est ce que justement l'invité de Chronique Hebdo, vous pouvez voir ça sur qui était Lou Marin la semaine dernière, venu nous parler des libertaires et Albert Camus, avait justement, on en avait un petit peu discuté, que l'Allemagne, par rapport à les écologistes, c'est pas les écologistes de boutique, c'est pas les écolos politiciens, c'est les écologistes, comme on vient de dire, qui descendent dans la rue, et le mouvement nucléaire est séparé, justement, là-bas, anti-nucléaire plutôt, est séparé de tout l'acoquinement politicien. C'est ça qui est important. Donc les gens, par exemple, tout le mouvement, comme en France, qu'on connaît un petit peu, le mouvement anti-nucléaire, quand même, qui a été important en France, à partir du moment où il s'est relié à une représentation politicienne, voilà. Il a commencé justement à disparaître. Mmh. Il a commencé à s'amenuiser. Et donc en Allemagne, c'est une spécificité, cette séparation. Et donc, comme on dit, c'est eux, des milliers de gens là-bas, hein, de la population, conscient du danger du nucléaire, qui
sont mobilisés
et qui font de la politique. Ils font de la politique, c'est ça faire de la politique, c'est-à-dire c'est pas la politique voilà. politicienne.
Ne pas confier, d'ailleurs on l'a souvent dit, c'est valable peut-être encore plus pour le nucléaire, ne pas confier à des politiciens ce sujet absolument dramatique et qui effectivement est un sujet qui conditionne l'avenir même du globe, de l'humanité. Il est certain que tout à l'heure on parlait des politiciens qui sont effectivement les soutiers et les souteneurs des banquiers oui. hein, pour effectivement étouffer un peu plus les populations et accroître l'injustice sociale et économique. Mais je remarque que dans toute l'équipe des 7 ou 8 marionnettes qui se présentent à l'élection présidentielle, eh bien c'est tous d'anciens politiciens de métier et la seule qui l'est pas est effectivement, elle a plus du tout, elle a pas, elle a 2% froid dans les,
rien, ouais.
dans les sondages,
oui, tu sais, hein. Là, tu sais,
cette pauvre voilà, Eva Joly qui a pas
Eva
du
Jolie,
tout,
comme on l'appelle ici,
qui,
ouais.
qui ouais. elle a pas du tout, ce background, mm. ce curriculum vitae, tu sais, du sénateur Mélenchon, 20 ans de toutes les crapules comme Hollande ouais. qui ont passé leur vie ouais. Dans les couloirs ministériels.
Il n'a jamais travaillé. Comme dit Pasqua, Monsieur Hollande, vous n'avez jamais travaillé.
Et effectivement, c'est là où on se dit qu'effectivement, à partir du moment où on entre dans le spectacle du politicien de métier, on abandonne toute j'allais dire dignité, toute capacité de simplement faire ce qu'on a envisagé de faire. On détruit totalement l'idéal pour lequel on prétend avoir oui. rameuté des foules oui. et je crois que c'est ça qui est le plus tragique dans cette histoire du nucléaire, c'est que nous étions quelques dizaines dimanche.
Alors,
à l'hôtel de ville.
Quand même, Jacques, à perdre la politique et on était peu nombreux devant l'hôtel de ville. Voilà.
Et c'est ça qui est triste, c'est que évidemment, je ne vais pas jouer les anciens combattants, mais quand je me rappelle Fessenheim, Malville, Le Buget, dans la vallée de la Loire, de la Loire, je crois vers Cône-sur-Loire, enfin à Nogent-sur-Seine, etc. Tous ces endroits où il y a eu des manifestations très importantes, qui malheureusement n'ont pas réussi à faire taire l'appétit de profit et l'appétit de folie scientiste de l'équipe des dictateurs de la science, hein, des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs des mines. J'ai vu que on allait regrouper les mines avec les télécoms,
oui,
parce qu'effectivement
bonne nouvelle,
il y a de moins en moins de mines, alors il y a de plus en plus de télécoms, mais tous ces personnages là hein, qui sont effectivement eux encore hein, c'est un peu à l'image des banquiers, c'est des gens qui ont un pouvoir et puis qui, en effet, se foutent totalement des conséquences de ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont inventé.
Oui.
Ils sont pris dans une espèce de mégalomanie.
Oui, justement, Jacques, je ne sais pas si tu te souviens, dans un des débats qu'il y a eu, ou plutôt un des films qu'il y a eu sur le nucléaire, on voit justement quelqu'un qui dit « mais le nucléaire, il est tout aux mains des technocrates et les politiques, en fait, ils n'y comprennent strictement rien du tout ». Et on montre justement un débat qui a eu lieu entre Ségolène Royal et Sarkozy. Et dessous, à chaque fois qu'il y en a un qui dit quelque chose, il y a écrit « c'est faux, c'est faux, c'est faux ». C'est-à-dire, ils se balancent des arguments à travers la figure et tous les deux n'y connaissent strictement rien. Donc le mec dit ce qui est absolument dingue dans le nucléaire, c'est que les technocrates du nucléaire ont vraiment le pouvoir complètement à eux. On est complètement privé de...
Mais moi je dirais que les politiques qui n'y connaissent rien au nucléaire, comme tu viens de le dire, ils n'ont qu'une vision du nucléaire, c'est que ça fait peur. Et ça fait peur, et effectivement ce qu'il faut c'est faire peur.
On n'était pas contaminé devant l'hôtel de ville, c'est ce qu'on a dit. Peut-être qu'il y avait des gens de Greenpeace, vous savez que les Français ont peur, qui ont pénétré dans une centrale, et ça devient des militants de Greenpeace contaminés. Et donc la population française a beaucoup plus peur des militants anti-nucléaires que justement du nucléaire, c'est ça le paradoxe. Alors, ça fait rire un peu, mais là aussi, la gravité de... On peut revenir sur ce qui s'est passé, puisque c'est la région parisienne, si ça fait 10 millions de personnes. Vous savez que la fameuse centrale...
10 millions de personnes, on n'était même pas 100.
Alors, on était... Voilà. Alors, pourquoi, Jacques? Quelques raisons. Il se tire dans les pattes, là aussi, par rapport au mouvement antinucléaire. Il y a les annonces qui étaient faites par rapport à cette manifestation, dont on en avait fait devant l'ambassade du Japon à Paris. Et les boutiques politiciennes, eh bien, n'avaient pas appelé. Et pour cause, elles n'avaient pas appelé à la manifester contre le nucléaire, puisqu'elles le soutiennent.
Donc,
le petit fidèle, soumis, eh ben, qu'est-ce qu'il fait si sa boutique l'appelle pas à venir manifester? Il reste chez lui.
Il n'est
pas capable de réfléchir par lui-même, malheureusement.
Aussi, on espérait Eva Jolie.
Et même comme tu disais aussi, il y a que le côté festif aussi, puisqu'on avait mis l'accent là-dessus sur cette chaîne humaine. Alors évidemment,
pour
c'est
donner
vrai
scout,
on la répercute quand même l'information, mais c'est ce qu'on disait avec Poupeau, c'est que actuellement le politique ne peut être que entrevu d'une manière festive. Voilà, on fait une chaîne humaine, on met entre deux personnes, puisque je vais vous raconter un petit détail, parce que c'est ma mère qui me racontait ça. Elle me dit ah oui, il y a une chaîne humaine.
Ma mère, l'écolo qui veut fustiger Eva Jolie.
C'est ma mère de là-bas. Elle me disait ah oui, j'ai vu ça, il paraît qu'il y a des gens, ils mettent des soutiens-gorge entre eux, tu vois, quand ils peuvent pas se tenir la main, eh ben comme il y avait un peu des vides, pour combler les vides, eh ben ils mettent un peu leurs vêtements. Et alors elle me disait on en voyait avec un soutien-gorge, quoi, tu vois, enfin le ridicule du truc, quoi.
Vu aucun article sur ce sujet dans la presse.
Est-ce que toi t'en as vu? Le Monde a fait vraiment le service minimum dans sa édition du mardi 13 mars, où il y a une toute petite photo. Alors il y a à peu près il y a 8 lignes décrites. Et il y a une photo où, si tous les gars et les filles du Monde voulaient se donner la main, alors on l'avait déjà dit, moi j'avais dit, les chaînes humaines, il y en a chez Renault, Peugeot, Citroën, Le travail à la chaîne, c'est pas ce qui manque, on en a plein des chaînes humaines.
Et le commentaire, alors, qu'est-ce
qu'il
dit ?
Alors le commentaire, 60 000 selon les organisateurs, et 33 000 selon les autorités, alors voilà, entre Avignon et Lyon, on l'a dit tout à l'heure, et des chaînes plus modestes, puisque vous savez, tout à l'heure on a parlé de la modestie, enfin par rapport à la baronne, ont aussi été formées à Bordeaux et à Bayonne. Alors là, la Suisse, 5 000 personnes qui ont marché vers la centrale de Mühleberg, apparemment les Suisses s'arrêtaient, et au Japon, 16 000 personnes se sont rassemblées à Koriyama, alors dans la préfecture de Fukushima, à 60 kilomètres de la centrale accidentée. Et à Tokyo, là c'est la moindre des choses, devant TEPCO. Alors on aurait souhaité des manifestations évidemment devant Areva et ici devant EDF et tout ça. Donc on peut voir évidemment que la distance entre le nucléaire, la puissance du lobby et puis la puissance de la propagande, hein, qui porte évidemment un impact considérable, et puis le peu de velléité de manifester, hein, contre le nucléaire. Et là encore une fois, rappelons la société japonaise, hein, aussi les mentalités japonaises très soumises à l'autorité. Avec Fukushima, c'est pas simplement un accident nucléaire, c'est peut-être un changement aussi dans les mentalités, dans la façon de voir les choses, hein, la façon de voir le monde, de dire, eh bien, ils nous ont menti, ils nous sont foutus de notre gueule, les gouvernements sont partis, c'était des trafiquants, c'était des menteurs, des gens très dangereux, et on a subi, et on subit, et on va subir des conséquences considérables. Voilà la situation au Japon, et absolument, ici, c'est la mascarade, et pendant ce temps-là, ils se pouillent tous pour la bagarre, pour la candidature qui être élue.
C'est ça qui est absolument fantastique. Moi, je sais que quand j'ai vu qu'on était, je sais pas, 50 sur cette immense place de l'hôtel de ville, c'est à désespérer.
On dit aux auditeurs, on y était, vous êtes animateurs de Chronique Hebdo, dimanche après-midi.
C'est épouvantable. Ça veut dire en effet que les gens sont devenus ou complètement aveugles ou la politique de l'autruche ou ils s'en foutent ou ils disent tous comme cette femme qui était interrogée par un journaliste et qui répondait quand le journaliste lui disait mais alors le nucléaire vous rendez compte c'est vachement dangereux et elle répondait oh faut bien mourir de quelque chose. Alors si on en est à ce niveau-là effectivement il y a même plus à parler de servitude volontaire ou d'esclavage parce que ça veut dire que il n'y a plus d'humanité, hein, parce que si on n'est pas capable, en effet, de se dire que c'est pas seulement, hein, alors, mais même les gens qui ont des enfants, mais je sais que c'est effroyable d'être aussi aveugle, quand on se dit, mais au fond, même si c'est pas nous qui sommes détruits, ça sera nos enfants ou ça sera nos petits-enfants, hein, alors donc, pour revenir au nucléaire, dont effectivement il y a eu des documentaires intéressants, notamment sur cette histoire peut-être encore plus sérieuse que, en tout cas plus sûre des dommages qu'elle causera, parce qu'on peut douter qu'il y a un séisme et on peut douter qu'il y a un tsunami. En tout cas, on ne sait pas quand.
Un séisme pour Fessenheim,
disons que c'est des prévisions des sismologues, etc. Tandis que les déchets, ils sont là, ils sont bien dans notre sac, les déchets. Et par conséquent, comment s'occuper d'eux? Qu'est-ce qu'on va en faire? On ne sait pas. Il y a eu en effet des documentaires sur ce sujet-là, mais tout ceci montre que on est en train de faire un laboratoire à Bure pour savoir si l'argile va être capable de soutenir d'empêcher la radioactivité de se développer, mais on n'a aucune certitude, y compris les ingénieurs qui sont en train de faire cet immense laboratoire qui coûte des fortunes. Donc les déchets, on se renvoie la balle. Ils s'en vont à La Hague, ils revont en Allemagne, ils s'en vont en Russie, en Sibérie. Donc on peut dire que le globe, une partie du globe en ce moment est entièrement déjà contaminé par les déchets nucléaires, hein, quand on voit les documentaires sur ce qui se passe en Russie ou à Gorleben. Et donc, ça, c'est un point très précis. Donc, on peut pas dire que le nucléaire, c'est simplement la tragédie nucléaire. Ouais. C'est pas seulement l'avenir. Hein. Ouais. Dans le présent, déjà des problèmes considérables à régler. Alors, il y a un petit problème aussi qui évidemment paraît un peu accessoire, mais qui est rappelé par le canard enchaîné. C'est le fait que des produits
alors Jacques, on peut peut-être arrêter. Je vais dire pourquoi, non, puisqu'on va faire une pour midi pour l'enregistrement, voilà. Puisque ce matin c'était un peu particulier avec des questions techniques et on restait à l'antenne. puisqu'on va, après une partie musicale, reprendre l'antenne et de vous donner d'autres informations et voir aussi...
Bah oui, parce que l'émission d'après n'est pas
pour
là.
Pour continuer pour l'émission suivante, ce que l'on peut
là,
faire.
L'Internet ne fonctionne
restez
pas.
À l'antenne de Radio Libertaire et de Chronique Hebdo.
Mais on va continuer un petit peu.
C'est le tango des bouchers de la Villette, c'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient qu'à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hal puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbaque pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comac. Faut que ça saigne bien fort, c'est le tango des joyeux militaires, des gais vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes vat en guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne, appuie sur la baïonnette, faut que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne, démolis en quelques-uns, tant pis si c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne, si c'est pas toi qui les crèves, les copains prendront la relève, et tu joueras la vie brève. Faut que ça saigne, demain ça sera ton tour, demain ça sera ton jour, plus de bonhomme et plus d'amour. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin.